Vous êtes sur RTL.
Ça va super, c'était très bien ce matin, Dominique Tenza. C'était oui. Presque parfait, presque pour ceux qui n'étaient pas réveillés à 5h30 tout à l'heure, il y a eu ceci.
Et vous retrouverez d'ailleurs le gymnaste avec Clarisse Agamemnon. Tout à l'heure, Stéphane Carpentier sera en ligne avec eux. J'ai pas réussi à le dire, pardon. Agbenyonou, tout à l'heure, voilà.
Excusez-moi,
j'ai bugué.
Bon, vous avez le week-end pour vous entraîner, Dominique Tenza.
C'était tôt, vous êtes dur.
Oui, je suis dur, je suis comme ça. Marina sera la bienvenue jusqu'à 9h15, à lundi, Dominique, à lundi. 5h. Bienvenue donc dans ce RTL Matin, 13 JO, 13 Olympiques. Car ça y est, enfin, Tokyo devient le centre de la Terre avec 11 000 athlètes rassemblés pour l'événement planétaire numéro 1. Les JO, ce sont des médailles, des champions, des larmes, des points levés, des petites histoires dans la grande. Alors oui, ce sont des jeux covidés. Oui, c'est compliqué sur place. Oui, ce sera sans public dans les tribunes. Mais ce sera la fête dès la cérémonie d'ouverture. Et ça commence bien, puisque nos porte-drapeaux, un gars, une fille, un homme, une femme, seront donc avec nous dans 45 minutes depuis Tokyo. Clarisse Agbenyenou, la championne de judo, et le gymnaste Samir Aïd Saïd, duo de choc dont les cœurs doivent battre très fort en ce moment avant de défiler tout à l'heure devant les caméras du monde entier. C'est RTL Made in Japan. Soyez tous les bienvenus. Sur place, il est 14h. Chez nous, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et ça se confirme tout cela avec Isabelle Choquet, le journal. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Car c'est parti pour cette quinzaine olympique.
Oui, rendez-vous à 13h pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. 378 athlètes français sont présents à Tokyo. Et dans ce journal, zoom sur notre duo de porte-drapeau. La nouvelle loi anti-Covid adoptée cette nuit à l'Assemblée. Et pendant ce temps, les non-vaccinés se ruent sur les tests. Ça bouchonne dans les labos et les pharmacies. Et puis les faux pas se multiplient. Une employée d'un centre de vaccination de Grenoble vient d'être arrêtée. Elle vendait de faux certificats pour 350 euros. À suivre également, Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, et les départs en vacances sous le soleil, mais pas pour longtemps.
RTL à Tokyo.
C'est toujours un événement, mais cette année c'est encore plus particulier. Isabelle, les Jeux Olympiques de Tokyo s'ouvrent officiellement aujourd'hui.
Des Jeux marqués du sceau de la pandémie. Ce sont les Jeux de 2020 en 2021. Ils sont entourés d'un arsenal de mesures sanitaires qui pèsent forcément sur la préparation des athlètes. Et puis ils ont lieu à huis clos, ou presque. La cérémonie d'ouverture tout à l'heure à 13h, ce sera sans public. La délégation française sera emmenée par un duo de porte-drapeau, le gymnaste Samir Aïd Saïd et la judokate Clarisse Agbenyenou. Un vrai tandem de choc, Isabelle Langer.
Leur notoriété n'a rien à voir avec un Teddy Riner ou une Laure Manaudou. Si Clarisse Agbenyenou et Samir Aïd Saïd ont été choisis par leur père, c'est avant tout pour leur personnalité attachante, profondément humaine et les valeurs qu'ils défendent. Cet hiver, le gymnaste a soutenu une campagne des Restos du Cœur qu'il a lui-même fréquentée avec ses parents dans son enfance à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. De son côté, la judoka est notamment marraine et ambassadrice de l'association SOS Préma, car elle-même est une grande prématurée avec son frère jumeau. Elle est longtemps restée en couveuse, a été opérée d'un rein quelques jours après sa naissance et a dû se battre pour vivre. Samir aussi a bataillé pour se relever de sa terrible chute au saut de cheval à Rio et de sa double fracture tibia péronée. Le mot résilience est sans conteste le dénominateur commun de ces deux champions qui se connaissent bien. D'ailleurs, leur complicité et leur bonheur d'être porte-drapeau irradient et pourrait bien donner des ailes à cette belle équipe de France.
Isabelle Langer, envoyée spéciale d'RTL à Tokyo. L'équipe de France qui compte 378 athlètes. Alors, ils ne seront pas tous présents tout à l'heure à la cérémonie. Certains ont des épreuves dès demain. Ils préfèrent se concentrer là-dessus. Mais la boxeuse Maïva Amadouche, elle, sera bien présente. Dans la vie, elle est policière et elle est la seule boxeuse française qualifiée pour ces Jeux.
Je suis très attachée à tout ce qui est symbole. J'ai beaucoup de chance pour ma patrie, la France, tout ça. Tous les jours dans le métier que je fais, le survêt d'équipe de France, les drapeaux là qu'il y a tout le long sur le village avec tous les pays représentés, c'est symbolique. Et pour moi, voilà, la cérémonie d'ouverture, c'est un symbole des Jeux Olympiques. Il faut être à la cérémonie d'ouverture pour ce côté souvenir inoubliable. Enfin, faut aussi penser à en profiter, quoi. Dire que c'est pas des conditions qui sont super faciles pour tout le monde. Après, c'est vrai que dans le stade, quand on va voir qu'il y a personne, tout ça lors de la cérémonie, ça peut faire un choc parce que quand même, quoi, en fait, on s'attend, on a tous l'image de on passe, les gens applaudissent, on partage ça avec la foule et tout ça. Et c'est vrai que le fait que ce soit pas ça, je vais voir comment ça va être. C'est vrai que j'appréhende un peu ce moment-là parce que les JO, c'est peut-être qu'une fois dans sa vie et ça, faut y penser.
La boxeuse Maïva Amadouche au micro RTL de Nicolas Burnand. Notez qu'Emmanuel Macron est arrivé à Tokyo cette nuit. Il va assister précisément à la cérémonie d'ouverture. Donc les Jeux, c'est parti, ou presque, à partir de ce soir sur RTL. On refait les Jeux tous les jours entre 18h30 et 19h avec Jean-Michel Rascol et Marie Portolano.
Le reste de l'actualité, Isabelle, c'est fait. La nouvelle loi anti-Covid a été adoptée en première lecture à l'Assemblée.
Un vote au bout de la nuit avec des débats musclés. Le texte entérine l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. En toute fin de nuit, le gouvernement est revenu sur deux amendements. Finalement, le pass sera bien obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Alors ce projet de loi doit être examiné au Sénat dès aujourd'hui pour une adoption autant que possible avant la fin du week-end. Dans les faits, le pass sanitaire est déjà obligatoire dans les lieux culturels et les lieux de loisirs. Et tous ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu se faire vacciner se ruent sur les tests. Reportage RTL de Zoé Pallier dans une pharmacie parisienne.
Vous avez une narine de préférence ?
Fini les pauses à l'ombre du Barnum entre deux tests pour Julia, infirmière. La file d'attente court jusqu'au bout de la place du Palais Royal.
Là, c'est non-stop, ça n'arrête pas.
Un flux continu de Parisiens et de touristes, tous en quête d'un QR code valide.
J'ai besoin de faire un test pour entrer au Louvre parce que je suis du coup pas vaccinée encore.
Résultat, ça n'a plus rien d'un test rapide comme promis, pourtant sur une affiche à l'entrée de l'attente, de quoi créer quelques tensions dans la queue.
Les gens sont passés devant nous.
Excusez-moi, on était là avant en fait.
Oui, on sait bien, mais il y a une heure déjà, on a eu le test et mon mari...
Vous attendez le résultat ?
Oui.
Ah, du coup, faut attendre une heure.
Certains finissent même par abandonner avant d'avoir atteint le Barnum.
Là, vous vous en allez.
Oui, c'est trop long.
Le pic d'affluence, c'est en début de soirée, souvent juste à temps pour s'offrir une séance cinéma. C'est ce qu'a remarqué Véronique Marly, elle est pharmacienne et directrice d'officine.
Depuis le 21 juillet, nous avons la demande qui a à peu près triplé.
Et vous tenez le coup, là, les équipes tiennent le coup ?
On essaye de suivre la cadence, mais c'est un petit peu difficile.
Pour faire face, la pharmacienne a d'ailleurs dû recruter deux nouveaux employés cette semaine.
Reportage RTL à Paris dans une pharmacie Zoé Pallier. C'est Labo sous l'eau. Concrètement, on va en parler tout à l'heure avec notre invité dans 10 minutes. François Blanchecotte, il est le président du syndicat des biologistes. Il sera avec nous à 7h20.
Pour s'en sortir sans vaccin, il y a donc les tests. Il y a aussi la voie de l'illégalité, se procurer un faux certificat vaccinal. C'est parfois un vrai trafic. Ainsi, à Grenoble, une jeune femme vient d'être interpellée hier et placée en garde à vue, Cindy Hubert.
Oui, la jeune femme d'une trentaine d'années travaillait dans le centre des congrès Alpes Expo, transformée depuis un moment en vaccinodrome. Elle occupait un poste stratégique puisque c'est elle qui était chargée de finaliser les attestations. Ces attestations qui permettent d'obtenir le fameux QR code valable pour le pass sanitaire. Des policiers de la Sûreté départementale ont vent de possibles dysfonctionnements dans le centre. Ils font une première visite puis les soupçons se précisent. La jeune femme est interpellée hier en plein milieu de l'après-midi, mais elle a réussi à effacer un certain nombre de données dans son téléphone. Un expert cyber parvient à les récupérer et ce sont des centaines de photos de cartes vitales qui apparaissent ainsi que des messages de transactions. Un trafic lucratif à plus de 350€ le faux pass sanitaire vendu à tous ceux qui voulaient éviter la case vaccin.
Cindy Hubert. Pendant ce temps, la quatrième vague épidémique continue de monter. Près de 22 000 contaminations sur les dernières 24 heures. Une pression qui ne se fait pas encore sentir à l'hôpital, mais cela ne durera pas forcément. Ça, c'est ce que dit le ministre de la Santé. Gérald Darmanin, lui, annonce des mesures pour mieux contrôler la détention d'armes. Le ministre de l'Intérieur était hier dans le Puy-de-Dôme pour rendre hommage aux trois gendarmes tués par un forcené en décembre. Il est question notamment d'interdire l'acquisition d'armes de guerre transformées.
Au chapitre politique, Isabelle, la droite a désormais deux candidats à la présidentielle.
Oui, pour ne pas laisser Xavier Bertrand seul en course, Valérie Pécresse s'est déclarée hier. La présidente de la région Île-de-France veut défendre une ligne libérale, pro-entreprise, écologiste, féministe, sociale. Sa candidature n'était pas vraiment prévue si tôt, William Galibert.
Oui, officiellement, elle devait encore réfléchir, se prononcer à la fin de l'été. En fait, Valérie Pécresse a surtout mis fin à un faux suspense. Plus personne ne doutait de ses ambitions et de ses intentions pour 2022. En début de semaine, la patronne de la région Île-de-France s'était même affichée pour une réunion et une photo avec tous les autres candidats potentiels à la primaire de la droite. Elle le répète d'ailleurs, je n'ai pas peur de la primaire. Et ça, c'est un message direct à Xavier Bertrand, qui refuse toujours de participer à la compétition organisée par les Républicains à l'automne pour trouver leur champion. Pour l'instant, Xavier Bertrand a de l'avance sur ses concurrents dans les sondages. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Valérie Pécresse accélère le mouvement. tenter de le rattraper, de l'obliger à rejoindre cette primaire. Valérie Pécresse qui indique qu'elle va passer son mois d'août à parcourir le pays.
William Galibert du service politique d'RTL. À l'étranger, le Maroc lance sa contre-offensive dans l'affaire Pegasus. Il poursuit en diffamation les deux associations qui ont révélé les cibles potentielles du logiciel espion et ses clients. Le régime marocain est soupçonné d'avoir fait surveiller, entre autres, le portable d'Emmanuel Macron, le président français qui vient de changer de mobile et de numéro. On prévoyait un carton et on n'est pas déçu. Le film Kaamelott, sorti mercredi au cinéma, a engrangé 423 000 entrées en deux jours. C'est un record pour un film français depuis 2018.
C'est vendredi, ça va bouchonner. Début d'un nouveau week-end de grand départ.
Ah oui, ça, si vous prenez le volant, sachez-le, vous ne serez pas tout seul. Bison Futé a hissé le drapeau orange pour aujourd'hui et rouge pour demain dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. À l'arrivée, où que vous alliez, il fait chaud, en tout cas pour l'instant. La journée d'hier a battu des records de température. En fait, on ne cherche plus le soleil, mais la fraîcheur. Illustration en Ardèche, où il a fait plus de 30 degrés. Direction les gorges du Doubs, du côté de Tournon, à l'ombre, avec Frédéric Perruche.
C'est un petit coin de paradis entre un pont romain en pierre et une chute d'eau avec des plages de sable et de galets et la rivière Le Doubs qui serpente paisiblement entre les collines boisées. Idéal pour se rafraîchir dans une eau à 20 degrés quand il fait plus de 30 à l'ombre. Mathis, 11 ans.
Elle est très bonne! Et là, ce qu'on peut faire, on peut sauter. Oh, c'était super, c'était mortel.
Aussi, je peux essayer de toucher le fond. Je peux nager, c'est bien.
Michel est un habitué de ces gorges du Doubs qu'il fait découvrir avec bonheur à ses enfants.
C'est un cadre idyllique, c'est un panorama de gorge, relativement sauvage. On n'est pas très loin d'un barrage aussi, une cascade. Et l'eau est bien fraîche et rafraîchissante.
J'ai mis la tête sous l'eau.
Et alors ?
Elle était très bonne.
Un peu à l'écart, Gabriel surveille ses petits-enfants et profite lui aussi de l'endroit tranquille et majestueux.
Ah, c'est merveilleux ici, oui, c'est verdoyant, il y a les cigales, le grillon qui chante. De temps en temps, on entend siffler le train, et c'est pas trop bruyant, il n'y a pas trop de monde, c'est impeccable. Cadre très agréable.
On est bien là, en plus sous le parasol.
C'est primordial le parasol. On est très bien.
Parasol obligatoire aujourd'hui encore dans les gorges du Doubs. Les températures vont encore dépasser les 30 degrés.
Un reportage RTL signé Frédéric Perruche dans les gorges du Doubs.
Avec les petites bêtes derrière.
Ah oui, avec les cigales, c'est bon. Hein.
Un cabour pour les courses aujourd'hui.
Et les pronostics de Jordan Philippi, le 12, le 9, le 6, le 7, le 11, le 10 et le 5. 12, 9, 6, 7, 11, 10, 5. La dernière minute de Jordan, c'est le 6, fleuron de pade.
Merci Isabelle Choquet. Toute l'actualité, c'est l'appli RTL. Il est 7h11.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Et c'est dans le Pas-de-Calais ce matin, dans le pays des Sept Vallées, où des habitants font découvrir leur commune, labellisée village patrimoine, pas forcément sur les guides touristiques, mais qui mérite le détour. C'est l'opération Vendredi au village. Tout l'été, des particuliers passionnés font découvrir leur cité, leurs églises, maisons ou autres richesses. Franck Hanson, RTL dans les Hauts-de-France, pour la visite à Boubert-sur-Canche, un charmant village fleuri de 600 habitants.
Rendez-vous est donné sur la place centrale du village. Michel et Jean-Luc, deux retraités passionnés, ont pris leurs notes.
On peut y aller, c'est bon.
Ils assurent aujourd'hui la visite dans cette petite commune fleurie. Elle a d'ailleurs toujours cultivé cette image depuis les années 60.
Ça a démarré exactement en 1959. Le maire de l'époque, qui s'appelait M. Victor Borin, a décidé de faire participer le village à un concours. Ça a marché puisque Boubert est arrivé premier village fleuri de France de moins de 1000 habitants. Et à partir de ce moment-là, ça a été la folie. Moi, j'habitais à la maison familiale, c'est situé à l'emplacement de la mairie actuelle. La rue était noire de monde.
Les visiteurs sont pour la plupart des habitants du secteur, curieux de redécouvrir leur région ou des touristes de passage.
Maintenant, ce que je vous propose, on va attaquer le tour du village.
Premier arrêt devant l'église.
Vous avez le clocher qui date de 1621. C'était la guerre franco-espagnole.
Monique est attentive face à ses guides amateurs.
Nous traversons le village. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que nous ne rentrons pas souvent à l'intérieur où il y a des monuments. Quand on a la chance de pouvoir s'arrêter un peu, on est très heureux.
Ancien salarié dans le textile et féru d'histoire, Michel Seola est un fin connaisseur de ces monuments. C'est une partie de sa vie qu'il raconte dans ses ruelles.
J'ai commencé à m'intéresser au village, c'est dans les années 80. où je faisais collection de cartes postales anciennes. Puis un jour, on m'a contacté tout simplement dans le cadre Village Patrimoine si je pouvais participer en tant que guide. J'ai dit pourquoi pas, en plus, c'est une passion.
C'est le fleurissement déjà et d'une. Son passé historique également, son usine. On va s'arrêter là.
Le groupe s'arrête devant l'ancien château transformé en filature.
Ce château était un des plus grands d'Artois. C'est un baron, donc ce monsieur achète ce château dans l'intention d'en faire une filature.
Et cette plongée dans ces villages patrimoine permet une découverte plus authentique, nous confirme Alexandre Durand, animateur à l'Office de tourisme des Sept Vallées.
On est plus dans une volonté de présenter le village en tant qu'espace vécu. Oui, il y a des choses à découvrir. C'est aussi là où les gens vivent. C'est vraiment de présenter aussi ces petites anecdotes personnelles qui font un petit peu la vie du village et qui en font la saveur en quelque sorte.
Le long de la Canche, le fleuve qui traverse la commune, des petites maisons en pierre, toujours garnies de fleurs colorées. Depuis un petit pont, les visiteurs du jour sont sous le charme.
C'est vraiment un petit village charmant qui vaut vraiment le coup de s'y arrêter.
Ces petites maisons, c'est comme dans les corons, dans le bassin minier, c'est le même genre en fait.
C'est un plaisir de faire découvrir ce village à ceux qui sont intéressés.
À Bouvert-sur-Canche, les habitants comme Jean-Luc et Michel, avec d'autres, participent à la renommée de cette commune. Et franchement, cela vaut le coup de s'y arrêter.
Et on vous croit sur parole, un été en France dans le Pas-de-Calais ce vendredi matin avec Franck Hanson. Merci à vous Franck. 7h14, restez bien là. Dans un instant, on accueille François Blanchecotte, le président du syndicat des biologistes. Car c'est la grande foule actuellement aux portes des labos depuis l'extension du fameux pass sanitaire. On se teste un peu, beaucoup, énormément. À tout de suite.
C'est l'été sur RTL. Stéphane Carpentier. RTL Matin jusqu'à 9h15.
Merci à vous tous d'être là, 7h17. Nous avions envie donc ce matin de nous arrêter sur l'une des conséquences de l'extension du pass sanitaire qui, si elle suscite une vague très importante de vaccination, cette extension est également synonyme de ruée sur les tests PCR. Vous avez sans doute fait la queue ou vu les files d'attente devant les laboratoires de biologie médicale, les labos sous l'eau. On en parle avec François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Bienvenue, bonjour, merci d'être connecté.
Bonjour.
En direct. Je n'exagère pas en disant que vous êtes totalement débordé.
Ah, tout à fait, oui. Tout ce qui est les laboratoires qui sont dans les zones touristiques, dans les lieux de culturels, là où les gens finalement ont pris conscience qu'il fallait ce pass absolu pour pouvoir sortir et se distraire, nous avons des queues importantes. Hier soir, j'avais plus de 100 personnes devant mon laboratoire, donc c'est vraiment compliqué. On est obligé d'accroître les horaires d'ouverture, de faire rester les personnels pour pouvoir traiter tous ces Français.
Et ça, ça a été immédiat, François Blanchecotte, après les annonces du président le 12 juillet.
Oui, quasiment immédiat, parce que les gens ont compris qu'entre le moment où vous prenez un rendez-vous de vaccination et le moment où vous allez avoir votre pass sanitaire, de toute façon, il y aura 4 semaines incompressibles si vous avez 2 doses. Évidemment, si vous avez qu'une dose, c'est un petit peu plus court. Et donc, pendant ces 4 semaines, évidemment, les gens, pendant l'été, ne souhaitent pas rester chez eux.
Concrètement, quels sont les profils là ? Qui se fait tester en ce moment ?
Alors essentiellement les familles, tous les gens qui se regroupent, tous les gens qui sont en voyage, qui vont aller aussi au camping, qui bougent en France, tous ceux qui finalement vont se retrouver ensemble et qui prennent conscience qu'il y a à un moment donné le besoin, la nécessité d'avoir tous un pass sanitaire.
Et les zones en tension, François Blanchecotte, c'est quoi ? C'est la Méditerranée, ce sont les grandes villes ?
Ah, c'est essentiellement les bords de côte, oui tout à fait, mais il y a aussi les grands lieux culturels, les châteaux, il y a tous les visites, les organisations. Je pense aussi aux centres de loisirs où souvent les animateurs n'ont pas été vaccinés dans les délais, donc ils se retrouvent à se tester tous les 48 heures.
Il y a un manque de matériel, on imagine, il y a quoi ? Un manque de personnel ? C'est quoi les principales difficultés face à tout cela ?
Alors, du point de vue matériel, non, pas exactement, parce que nous avions bien sûr anticipé un petit peu, mais d'autre part, nous étions prêts au niveau des machines, puisqu'on a déjà franchi largement plusieurs fois la barre des 2 millions de tests par semaine. Par contre, c'est les ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les gens, les personnels que nous avions se sont répartis aussi sur les centres de vaccination.
Donc, vous avez besoin de quoi, concrètement ? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités sanitaires ?
On demande des bras, on a négocié essentiellement de voir si on pouvait organiser avec d'autres personnels le fait de faire des prélèvements, le fait d'accueillir des gens dans nos laboratoires. Est-ce que on pourrait, par exemple, au niveau des personnels administratifs, pouvoir augmenter leurs possibilités, pouvoir faire des tests? Et donc c'est des éléments très importants aujourd'hui qui sont en discussion.
Ça veut dire quoi, des secrétaires médicales ? Ça pourrait être aussi des étudiants ?
Ça peut, alors, des étudiants principalement, bien sûr. On a évoqué aussi les secrétaires médicales, tout à fait. Et vous avez raison, c'est des éléments dans lesquels on pourrait avoir des ressources humaines potentielles.
Est-ce que vous êtes fortement sollicité en ce moment par les mairies, par exemple, qui vous sollicitent pour tester les personnels non vaccinés qui sont en contact avec
alors,
du public?
Alors, les mairies, pas tellement, parce qu'ils ont souvent aussi à disposition par les ARS des tests antigéniques dans lesquels ils ont travaillé. Mais par contre, les mairies nous sollicitent pour les lieux culturels. Nous avons été sollicités hier soir pour les châteaux à visiter et à organiser très rapidement la visite, les tests avant la visite de nocturne ou avant les lieux les spectacles.
Et cet afflux, ces files d'attente, ces queues devant les labos, du coup, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire que ça a des conséquences sur les délais pour les résultats? Ça vient plus tard, il faut être patient.
Alors non, pour les délais, une fois qu'on a le matériel, le prélèvement, qu'on l'a recueilli, on est toujours dans ces cycles de délais aujourd'hui où nous rendons 94% des résultats en moins de 24 heures et souvent en moins de 12 heures. Donc pour l'instant, on est capable d'absorber ce travail. Par contre, évidemment, c'est le temps du prélèvement qui reste indispensable. Et là, il faut beaucoup de gens.
Ouais, et il faut de la patience. Est-ce que vous espérez du coup que les tests deviennent payants pour réduire l'affluence dans les labos là?
Alors c'est une décision gouvernementale qui est prévue en octobre. On reviendrait à une situation qu'on a connue avant l'annonce du président le 14 juillet 2020, où les tests n'étaient remboursables que sur ordonnance et que si vous étiez cas contact. Donc on reviendrait à cette situation. De toute façon, ce que j'espère le plus, c'est que plus de 50 millions de Français seront vaccinés, et donc on aura moins de tests à faire, et ça, on les fera peut-être dans de meilleures conditions et plus rapidement.
Et c'est ça, on doit imaginer à terme et voire espérer, comme vous le dites, que la vaccination prenne le dessus sur les tests, ça serait bon signe.
Absolument.
Merci beaucoup. Merci beaucoup François Blanchecotte de nous avoir accompagné ce matin.
Passez une bonne journée, bon
courage. Tout pareil. Président du syndicat des biologistes en direct sur RTL, l'essentiel bien sûr, c'est à trouver cet entretien sur l'appli RTL. Vous restez bien là, la pépite musicale arrive, la musique au réveil c'est très très bon, ça s'écoute sans modération, c'est juste après ça.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
La pépite musicale de ce matin, bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pépite consacrée à une grande voix disparue.
Oui, ce 23 juillet marque les 10 ans de la disparition de la chanteuse anglaise Amy Winehouse. Sa mort en 2011 a réveillé le club des 27, vous savez cette liste d'artistes morts à l'âge de 27 ans. Son talent était absolument exceptionnel. Un live qui n'existait qu'en DVD depuis 2008 est enfin disponible en CD et en streaming. Il s'agit d'un concert enregistré à Londres en mai 2007, année de sortie de son extraordinaire album Back to Black, 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Année où déjà les nouvelles de la chanteuse n'étaient pas toujours géniales, elle avait annulé deux fois dans cette salle, mais la troisième était la bonne et quelle merveille. 16 titres puisés dans ces deux albums. J'ai choisi la chanson You Know I'm No Good. C'est notre pépite du jour, Amy Winehouse sur scène en 2007. Meet you downstairs in a bar. You're rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said why did he snuffed me out like I was temporary. Cause you're my fella, my guy. Tell me your stellar and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like rainbow. I cheated myself like I know. Amy Winehouse était l'auteur-compositrice de ses chansons. Elle avait inventé une façon de se réapproprier de manière follement rock aussi bien le jazz, la soul que la culture pop. Elle avait raconté que son père écoutait du jazz en boucle à la maison et quand elle entendait un morceau qui lui plaisait, elle sortait de sa chambre pour lui demander le titre, elle notait le titre sur un bout de papier et quand elle se retrouvait seule à la maison, eh bien elle passait les chansons à fond et elle chantait tout ce qui lui passait par la tête en essayant de suivre les mélodies. C'est comme ça qu'elle s'est fait sa voix. L'intégrale de ses enregistrements est disponible dans le coffret 5 CD Amy Winehouse The Collection.
Il n'y a rien à rajouter ce matin. Pépite musicale avec Anthony Martin et on prolonge le plaisir. Elle nous réveille dans la bonne humeur, les grosses têtes de Laurent Ruquier. L'été, ce sont les temps forts, le meilleur de la saison, avec notamment la vie des animaux, tiens.
Il y a 21 lynx qui avaient été réintroduits dans les Vosges dans les années 80-90. Et aujourd'hui, l'espèce a de nouveau quasiment disparu.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils les mangent?
Les braconniers.
Il n'y aurait que 4 ou 5 lynx seulement qui resteraient. Alors, en cause, ça c'est assez fou parce que c'est pas seulement le braconnage, c'est aussi les collisions sur la route.
Parce qu'ils ne voient pas bien, contrairement à ce qu'on dit.
L'œil de lynx, en fait, ils ne voient pas bien,
donc ils se tapent dans des voitures. C'est comme quand tu es attiré par ce qui brille. Et ben, le lynx, il fonce dans les phares.
Ça fait du bien d'avoir une scientifique quand même dans les phares.
Oui, mais je ne savais pas qu'elle avait étudié les lynx. Mais...
C'est tellement gracieux en plus le lynx parce que.
Oh oui, c'est gracieux. Oui.
Non, mais au bout des oreilles, il y a comme une petite touffe de poils. Oui.
Mon boucher aussi, il a des cons.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, quel bonheur. 15h30, 18h cet après-midi. Et le podcast, bien sûr, sur l'appli RTL. On a un beau soleil ce matin en Seine-et-Marne, chez Sylvie, qui écoute RTL sur la route du travail. Marina, tout va bien?
Tout va bien.
Dernier jour de stage, hein?
Ouais.
Appliquez-vous. Hein.
J'ai un rapport à faire. Ouais, et j'ai 2-3 trucs à dire.
Tout à l'heure. Bon, ça se dégrade par l'ouest.
Oui, ça se dégrade par l'ouest. En fait, c'est beaucoup plus nuageux sur les régions atlantiques. Et c'est vrai qu'on attend des averses et des orages. C'est déjà le cas, hein, ce matin sur la pointe du Finistère. Et c'est vrai que ça va concerner la Bretagne, puis la Basse-Normandie, les pays de la Loire. C'est là où on attend donc des averses, des orages, parfois violent. Météo France a placé le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan et la Manche en vigilance orage. Donc situation à surveiller. Première salve ce matin, une deuxième qui arrivera aussi dans l'après-midi. Pour les autres, c'est assez calme. Je vous le disais, quand même nuageux sur l'ouest, mais plus on va vers l'est, et bien plus le soleil est présent. Et de toute manière, même si ça va se voiler en cours de journée pour l'ensemble du pays, ça restera agréable quand même sur une grande partie du pays parce que l'on a des températures extrêmement douces et qui seront encore chaudes cet après-midi. Mais ces orages vont arriver dans la soirée du centre-est au nord-est. Donc pour vous, la journée sera agréable, mais en fin de journée, attendez-vous à des orages. Et Météo France a placé 10 départements, Creuse, Corrèze, Cantal, Puy-Dôme, Allier, Loire, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne et Côte d'Or en vigilance orange aux orages. Puis on a toujours l'Aisne-et-Loise en vigilance orange crue. Voilà pour la situation météo. Côté température, donc la douceur ce matin. Il fera encore chaud cet après-midi, 36 à Toulouse encore une fois, 36 à Grenoble, 35 à Lyon, 35 à Clermont-Ferrand, 34 degrés à Tours et à Montélimar, 33 à Marseille, 32 à Dijon et Orléans, 31 à Strasbourg, 31 à Paris, la capitale qui gagne 2 degrés, donc même s'il y aura un petit voile nuageux cet après-midi, ce sera de la chaleur, 30 à Nantes, 28 à Bordeaux, en revanche sur l'ouest on perd quelques degrés, 27 à Lille, il ne fera que 25 à Brest contre 31 hier et 23 à Cherbourg.
Dernier jour de stage pour Marina Giraudeau, dernier jour pour le grand jeu RTL de l'été, pour tenter de décrocher l'un des cadeaux qu'on met à disposition des auditeurs pour vous récompenser, vous remercier, vous gâter bien sûr. Il y a tout plein de choses et aujourd'hui un chèque de 1000 euros ou alors une super console de jeux vidéo. Il faut s'inscrire dès maintenant pour participer. Soit vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, ou alors 3210 3210, le standard est ouvert. 3210 ou alors RTL par SMS au 74 900. On vous souhaite bonne chance. Bienvenue, 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 23 juillet.
5 anneaux olympiques, presque comme pour symboliser les 5 ans d'attente depuis Rio. Les JO de Tokyo, dont on s'est demandé jusqu'au dernier moment s'ils auraient ou pas lieu, démarrent officiellement à 13h, heure française, avec la cérémonie d'ouverture. 378 Français pour ramener des médailles. Et parmi eux, Jimmy Gressier, l'athlète de 24 ans, spécialiste du 5000 mètres, participe à ses tout premier jeu, et vous allez l'entendre, c'est un rêve de gosse qui se réalise.
De me dire que moi, maintenant, entre guillemets, les athlètes que je prenais en exemple quand j'étais petit, ben aujourd'hui, peut-être que je serai aussi un exemple pour d'autres petits, c'est vraiment un bonheur.
Vous êtes rentré dans la télévision.
C'est ça, en fait, ouais, exactement. Je suis rentré dans la télévision, là où je regardais les Jeux de Rio chez moi, dans l'appartement de mes parents, dans un HLM, au quatrième étage. Enfin, le petit Mimi, parce que c'était mon surnom dans mon quartier, là sera aux Jeux Olympiques et dans la télé, de l'autre côté de la télé. Donc, ouais, c'est un truc de fou, en fait. J'arrive pas à mettre de mots sur l'évolution qui m'a amené jusqu'ici, en fait.
Jimmy Gressy avec Jean-Michel Rascol, que vous retrouverez aux côtés de Marie Portolano pendant les JO de 18h30 à 19h. Notez bien votre rendez-vous quotidien, c'est On refait les Jeux, avec également nos envoyés spéciaux sur place pour nous faire vivre ces JO, Isabelle Langer et Nicolas Burnand. La cérémonie donc démarre dans un peu plus de 5 heures à huis clos, pandémie oblige. Seuls 950 officiels seront présents et parmi eux Emmanuel Macron. Le chef de l'État est à Tokyo et s'est rendu ce matin au Club France pour rencontrer des représentants après un entretien avec le président du comité olympique Thomas Barr. Il donne désormais rendez-vous à Paris en 2024.
On sort du bureau là, et d'une très bonne discussion avec le président du CIO Thomas Barr. Et donc nous allons continuer nous aussi à aller de l'avant pour préparer notre pays au rendez-vous de 2024. Nos athlètes, mais aussi je dirais nos enfants, toute la société, et être au rendez-vous de ces valeurs et de l'exigence de la performance.
Emmanuel Macron au micro d'Amy Elliott. Et déjà une bonne nouvelle pour nos sportifs français avec la qualification cette nuit en aviron pour les demi-finales en deux de couple, messieurs et dames, pour les pairs Androdias Boucheron et Lefebvre Raveras Caramozzino.
Et nous irons à Tokyo directement dans un tout petit quart d'heure pour rejoindre nos porte-drapeaux de la délégation française pour la cérémonie d'ouverture. Je parle du gymnaste Samir Aïd Saïd et de la judokate Clarisse Agbenienou. Ils seront avec nous justement à quelques heures de la cérémonie. C'est 13h heure française, je le rappelle. Eux ont clairement disputé l'épreuve du sprint cette nuit au Palais Bourbon, ce sont les députés.
L'Assemblée a adopté en première lecture un peu avant 6h ce matin le texte sur le pass sanitaire après une nuit électrique de débat. Place maintenant au Sénat pour une adoption définitive voulue ce week-end par le gouvernement. Et cela dans un contexte de flambée des cas en cette période de vacances. Et pour partir en congé, vous allez peut-être prendre l'avion où le port du masque est obligatoire. Air France communique ce chiffre surprenant, 60% des incidents de passagers au sein de la compagnie viennent de cette obligation, Arnaud Touche.
Oui, même si ces événements sont rares, le personnel navigant est formé à gérer les passagers parfois violents. Il privilégie bien entendu le dialogue et la courtoisie. Un document rappelant les règles à bord est distribué aux passagers récalcitrants. Mais parfois cela ne suffit plus, que ce soit au sol comme en vol. Christelle Auster est la présidente du syndicat national du personnel navigant commercial.
On va donc informer le commandant de bord qu'on a un passager qui refuse de respecter le règlement. On peut appeler la police à l'arrivée et dans la mesure où il devient violent. Nous, on a aussi reçu une formation pour maîtriser les passagers qui deviennent violents physiquement.
Par maîtriser, comprenez poser des liens de contention afin d'immobiliser un passager très violent qui met en jeu la sécurité d'un vol. Enfin, un client peut aussi se voir interdire temporairement l'accès au vol de la compagnie.
Arnaud Touche pour RTL.
Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle manifestation anti-pass sanitaire s'est tenue hier à Paris.
Un rassemblement devant le Sénat sous haute tension. Samedi dernier, plus de 110 000 personnes se trouvaient dans les cortèges et certaines arboraient une étoile jaune ou encore ce message en référence au fronton d'Auschwitz. Le pass sanitaire rend libre. Cette semaine, une plateforme a même mis en ligne des t-shirts avec des étoiles jaunes. Ils sont depuis supprimés, mais pour Emmanuel de Bono, historien et rédacteur en chef de la LICRA, un cap a clairement été franchi.
On a l'impression en fait qu'on franchit en fait des certaines limites dans l'indécence. Alors c'est évidemment très compliqué parce que je pense que toutes les personnes qui arborent ce type d'insigne ne sont pas des personnes qui sont forcément animées de sentiments antisémites. Alors dans le cadre de cette plateforme de vente en ligne, là on passe à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on est dans la commercialisation finalement de cette minimisation outrancière. Là il y a quelque chose qui est vraiment malsain. Ce n'est pas du négationnisme, mais ça fait le lit du négationnisme. On est dans quelque chose qui piétine l'histoire, piétine les faits, et on est dans cette ère de post-vérité qui fait tant de mal aujourd'hui à la démocratie.
Emmanuel de Bono de la LICRA avec Cindy Hubert.
Épargner pour mieux vous arnaquer, c'est l'objectif des sites frauduleux qui fleurissent ces derniers mois.
Avec la crise sanitaire, les Français ont épargné l'an dernier 142 milliards d'euros de plus qu'en temps normal. Avec leur placement préféré, le livret A, résultat, des pirates créent des sites sur lesquels ils proposent au nom de vraies banques des taux d'intérêt très intéressants. Elodie en a été victime, elle a perdu 6 000 euros.
Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un peu plus intéressant, donc je vais tenter. Donc là, j'arrive à avoir quelqu'un qui me propose donc de faire un test sur 500 euros. Tout ça se fait donc par téléphone et je fais un règlement par carte. Tout me faisait penser que c'était une vraie banque. Je pense que c'était un site détourné. C'est bête, c'est rageant de se faire piéger comme ça, quoi.
Quel taux d'intérêt on vous proposait sur le livret?
Je dirais dans les dans les 2-3%, c'était plus intéressant qu'actuellement, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, après tout, je vais essayer, si ça peut me rapporter un peu plus, plutôt que ça me rapporte rien, je vais essayer, quoi.
Cette victime d'un site frauduleux avec Nerissa Emani, l'association de défense des consommateurs comptabilise 30 millions d'euros de dossiers d'arnaque au placement.
Et puis attention, si vous partez en vacances, il y a du monde sur les routes ce week-end.
C'est orange pour les départs aujourd'hui selon Bison Futé. Demain ce sera rouge et vous risquez d'être dans les embouteillages sous la chaleur. 35 degrés par exemple prévu à Orange sur la fameuse autoroute A7. Alors quelles sont les bonnes pratiques pour prendre la route avec cette météo, Christophe Bourou?
D'abord le conseil basique mais qui peut vous sauver la vie, surtout si vous devez affronter des bouchons. Pensez à bien prendre des bouteilles d'eau ainsi qu'un brumisateur. Important aussi de respecter la pause toutes les deux heures car la chaleur fatigue et fait perdre beaucoup de concentration au volant. D'ailleurs, lors des pauses, choisissez un coin à l'ombre pour garer votre voiture et surtout, ne laissez personne à l'intérieur. Mettez en garde Christophe Ramon de la prévention routière.
La température monte très vite à l'intérieur de l'habitacle, à l'arrêt. Ça peut prendre facilement 10 degrés en 10 minutes. Donc là, on a un vrai danger si on laisse les enfants ou si on a des animaux, il faut sortir tout le monde.
Et en roulant, la clim est bien sûr votre allié, à condition d'y aller mollo pour éviter le rhume.
Il faut régler la clim au maximum entre 5 et 7 degrés en dessous de la température extérieure.
Et en plus, en réglant bien la température dans l'habitacle, vous éviterez de gaspiller du carburant. Une clim poussée à fond peut en effet se traduire par une surconsommation qui peut grimper jusqu'à 20%.
Christophe Bourou pour RTL.
Voilà, précieux conseil, évidemment, on va vous accompagner dès les premières difficultés sur RTL. Bonne route à vous et bonnes vacances si vous avez la chance de partir. À tout à l'heure, Hortense, pour un point complet sur l'actu à 8h30. Dans un instant, c'est l'Angle Éco avec Anaïs Bouissou. Bonjour.
Bonjour.
On va parler du marché de la viande.
Oui, mais pas de la viande à laquelle vous pensez. Je vais vous parler de viande végétale. Alors, associer viande et végétale dans un même produit, c'est vrai que ça peut surprendre, mais vous allez voir que c'est un marché d'avenir.
Je serai curieux. À tout de suite, Anaïs Bouissou, 7h38.
RTL. Et elle matin.
Vous êtes bien sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 7h39, l'Angle Éco, Anaïs Bouissou. Et si demain on mangeait des aliments qui ressemblent à de la viande, qui en imitent le goût, l'apparence, mais qui n'en sont pas? On va donc s'arrêter sur cette tendance des viandes végétales.
Oui, est-ce que ça vous tente un bon gros poulet au soja, une tranche de bœuf au tapioca, voire gourmandise des gourmandises du bacon de champignons? Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais la viande végétale est déjà bien plus qu'une mode pour privilégier. Au niveau mondial, c'est un vrai marché qui s'ouvre. L'industrie agroalimentaire en a bien conscience. Les articles de presse fleurissent sur le sujet ces dernières semaines. Et si en France, ce type de produit est encore, il faut bien le dire, marginal et loin de faire l'unanimité, il y a fort à parier qu'on se trouve aux prémices d'un nouveau mode de consommation.
Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer tout cela?
Si on se tourne vers les États-Unis, c'est un marché alternatif qui explose littéralement. Rien qu'en 2020, les ventes ont grimpé de près de 30% et les imitations de viande prennent toutes les formes presque dans les restaurants, dans des chaînes de fast-food, dans les grandes surfaces comme dans les épiceries. Des mastodontes du secteur se développent. Ils s'appellent Impossible Food notamment ou encore Beyond Meat, traduisez au-delà de la viande, que les marchés valorisent l'équivalent de 8 milliards d'euros. Ça a vraiment l'apparence de la viande, mais à la place, on trouve du riz, du soja, des pois chiches, du tapioca ou encore du mycélium de champignons.
Donc, comme trop souvent, à faire comme les Américains, en France, c'est pour bientôt.
Traditionnellement, quand ce type de tendance alimentaire fait fureur aux États-Unis, il faut compter entre 2 et 4 ans pour que ça se développe sur le marché français. C'est ce qu'explique le laboratoire Digital Food Lab. Le mouvement s'enclenche déjà progressivement en Europe, en Allemagne et au Pays-Bas notamment. Et il faut savoir qu'en Suède et au Danemark, l'enseigne McDonald's teste même des burgers 100% végétariens. Pour vous dire que la tendance est mondiale, l'Asie n'y échappe pas. Des enseignes, des start-up commencent à y prospérer pour compléter les produits à base de tofu qui sont, eux, déjà très consommés.
Et on a besoin de comprendre, Anaïs, pourquoi les industriels misent dessus.
Mais c'est un mélange de marketing, de santé publique et de conscience de l'environnement. C'est ce qu'explique le magazine M dans une enquête sur le sujet. Côté environnement, la production mondiale de viande est responsable de près de 15% des émissions de gaz à effet de serre. L'élevage intensif partout sur la planète pollue, ne pourra pas nourrir tout le monde. Se passer de viande serait une partie de la solution. C'est un discours qui n'est pas nouveau, mais qui a un certain écho maintenant. Et puis, bien sûr, il y a le côté marketing de ce type de produit. C'est la base pour les industriels. Vous mettez au point un nouveau concept, une nouvelle offre, et ainsi vous créez un besoin de consommation. Ça fonctionne comme ça pour tous les produits. Bah, par exemple, le shampoing, vous avez le shampoing sec, cheveux longs, cheveux colorés, etc. Et bien, pour l'alimentation, c'est pareil. Les industriels y croient tellement que rien qu'en Europe, les investissements dans les protéines alternatives ont augmenté de 178%.
Ouais, ça n'est pas rien. Si c'est si prodigieux, pourquoi c'est encore si peu développé chez nous en France ?
Il y a déjà quelques entreprises qui se développent. Mais le problème, c'est que le végétal ne veut pas forcément dire 100% sain pour la santé. Et tous les contenus de ces faux poulets, faux bœufs, faux moutons doivent souvent encore soit trouver leur propre recette chez nous, soit franchir les barrières des législations françaises et européennes. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, pour donner le goût et la couleur du sang, une partie des viandes sont fabriquées à base de levures génétiquement modifiées, des OGM. Et ça, chez nous, bah, c'est interdit. Autre problème, le nombre d'additifs qu'il faut ajouter pour les textures, les couleurs des fausses viandes. Pour des aliments censés être meilleurs sur le plan de la santé et de l'environnement, il y a encore des progrès à faire. Mais que vous le vouliez ou non, Stéphane, la tendance de la viande sans viande est bien là, elle germe même chez les industriels français et elle n'attend que les consommateurs pour révolutionner le marché des protéines animales.
Je vais me faire une bonne côte de bœuf, 100% côte de bœuf, moi, ce midi.
C'est comme ça. De la
Merci.
Vraie viande.
Anaïs Bouissou, L'Angle Éco, c'est à réécouter, podcasté sur l'appli RTL. 7h43, dans un instant, direction Tokyo, les JO, nos porte-drapeaux nous attendent. À tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Nous avons l'immense chance ce matin d'être connectés avec Tokyo et avec nos porte-drapeaux tricolores qui vont défiler tout à l'heure, afficher nos belles couleurs pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques japonais. Ce sera à 20h sur place à Tokyo où vous êtes, Clarisse Agbenienou. Bonjour à vous.
Salut.
Et Samir Saïd nous rejoint aussi, il est à quelques mètres de vous. Bonjour Samir.
Bonjour, bonjour à tous.
On est ravis de vous avoir tous les deux, un homme, une femme, la parité est respectée évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud?
Bah ouais, on est en forme, on est motivé, très excité de porter toute cette délégation France sur Tokyo et voilà, on va faire le job.
Clarisse, est-ce que je vais trop loin en disant que le rêve là devient réalité?
Non, pas du tout. Le rêve devient vraiment réalité. Je pense que pour nous deux, on savait pas comment ça allait se passer. Il y a un an, tout a été stoppé. Jusqu'à même quelques mois avant les Jeux, avant d'arriver là, on savait pas trop s'ils allaient vraiment les annuler. Il y avait encore des petites suspicions. Et puis, on savait que les habitants japonais ne voulaient pas de ces Jeux. Mais maintenant, on y est et c'est trop tard.
Donc, on va en profiter, bien sûr. Comment ça se gère ces dernières heures avant cette grande cérémonie? Est-ce que vous êtes toujours tous les deux, toujours ensemble? Est-ce que vous coachez? Est-ce que vous motivez peut-être, Samir?
Bah, en fait, on s'est vu tout à l'heure parce que moi, je suis arrivé un peu plus tôt que Clarisse. On était tous les deux en stage aussi au Japon, mais pas dans la même ville. Donc là, on s'est retrouvés tout à l'heure là, au village olympique et ça a été une immense joie de retrouver ma collègue.
Clarisse, c'est ça, il faut se motiver entre vous deux. Comment vous réalisez tout ça? Comment vous vous préparez?
Je vais poser trop de questions. Je pense qu'il en a marre de moi déjà. Il a essayé, mais il a été calme, jamais, patient. Jamais. Il a essayé de m'expliquer. Jamais. Il est vraiment top parce que j'arrête pas de l'assassiner de questions. Alors toi, c'est comment? C'est comme si, explique-moi. Et il m'a fait des schémas même. Il s'est posé, il a dit regarde, écoute, prends le temps, regarde-moi. Non, là on est bien, on profite bien. Je suis contente de le voir. Non, je suis arrivée que hier au village. Donc on prend nos marques. Mais là je vais pas le lâcher, il n'est pas prêt.
Clarisse, vous réalisez, Clarisse, que ce que c'est d'être porte-drapeau aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fait coacher par exemple par d'anciens, par Teddy Riner, qui avait porté le drapeau tricolore lors de la dernière aventure olympique?
Non, je ne me suis pas fait coacher pour ça. Après, les seuls mots qu'il a pu me dire, c'était vraiment bon, quand même. Enfin, oui, en tant que champion, on va dire comme ça, c'est pas une fin en soi, t'as intérêt à ramener la médaille d'or. Donc, bon, j'ai compris, hein, j'ai vite compris. Mais non, je pense qu'avec Samir, on va se faire notre propre expérience. En plus, c'est la première fois que c'est mixte. Donc, ça ressemblera jamais à tous les jeux qui se sont passés. On va profiter, on va vraiment se donner de l'énergie, on va rigoler. Vous allez voir, je pense qu'on va faire une bonne team là. On est vraiment deux personnes qui ne se prennent pas la tête. On a plein de rires. Je pense qu'il y a des fous rires qui vont se faire. Et si vous voyez Samir, là, on n'est pas très loin, mais il fait que me faire des signes. J'ai envie de rigoler. Et je ne peux pas, mais il faut filmer ça. Je pense qu'il ne faut pas venir en backstage.
Vous avez le droit de rigoler, hein, Clarisse. C'est pas interdit, vous le savez. On en a bien besoin en ce moment. Gérer le stress de la compétition, Samir, ça vous savez le faire. Être porte-drapeau, c'est autre chose. Il y a une vraie pression quand même. Est-ce qu'on a le cœur qui bat? Comment vous gérez tout cela ces dernières heures là?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de pression. C'est que du bonheur. C'est que du plus. C'est des moments magiques. Donc il n'y a pas du tout à se mettre la pression. Nous, on vient ici pour une seule raison, c'est d'être médaillé et représenter au mieux la France. Donc il n'y a pas de raison à se mettre une pression énorme. De toute façon, ça va servir à rien, qu'on se la mette ou non, ça va rien changer. On va faire les choses bien comme on sait faire, on va s'appliquer, on va représenter au mieux. Et voilà, non, on va, excusez-moi du terme, on va kiffer. On va kiffer notre moment, on va représenter la France. Voilà, on est la France. C'est ça qui est le plus beau.
On va vous faire kiffer aussi.
Et la compétition, elle arrive très très vite pour vous dès ce samedi. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, malgré tout, est difficile à gérer, à préparer, à anticiper? Vous pensez pas que vous allez laisser beaucoup d'énergie lors de cette cérémonie avant justement votre rendez-vous de gymnastique?
Bah écoutez, on va essayer de s'économiser au mieux. Voilà, maintenant c'est comme ça. Je n'ai jamais fait de cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui j'ai la chance d'être porte-drapeau. Je pense pas que ça va m'arriver une deuxième fois, donc voilà, je ne pouvais pas refuser. C'est quand même une fierté immense d'être porte-drapeau. Je vais m'économiser le lendemain et sur le jour même quand même. Je pense que le CNO a mis en place des navettes pour pas trop traîner là-bas. Et après, effectivement, oui, dès que ça sera terminé, je vais vite rentrer au village me reposer et je passerai le soir.
Cette cérémonie d'ouverture, le gros bémol, la fausse note, Clarisse, évidemment, c'est qu'il n'y aura personne dans les tribunes, ce sera à huis clos. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
C'est vrai que moi qui ai vécu la cérémonie à Rio il y a 5 ans, ça faisait du bien d'avoir du monde, c'était un vrai spectacle. Et là, ça va être totalement différent. Après, c'est une expérience à vivre. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, je sais qu'avec Samir, on va se relayer, on va faire en sorte... Moi, je vais faire en sorte qu'il se sente bien. Je vais essayer de l'alléger pour qu'il puisse être le moins fatigué possible pour son épreuve du lendemain. Ça va être un moment de partage et on va partager aussi avec les athlètes, la nation. On fera une chose totalement différente, mais on va profiter entre nous cette fois-ci, même si les autres années ont profité entre nous aussi. Mais on va vraiment se focaliser sur nous. Et si des fois il faut qu'on ait d'autres discussions ou qu'on apprenne des uns et des autres, ça sera un moment convivial.
Comment ça se passe là depuis que vous êtes
Clarisse,
sur le...
Moi, Clarisse, elle m'a dit que dès qu'elle allait rentrer dans le stade, elle allait rentrer dans le stade avec le drapeau et elle allait me donner le drapeau et elle allait faire un salto arrière devant tout le monde à l'intérieur du stade. Voilà ce qu'elle m'a dit.
Samir, il m'a dit, comme je fais mon épreuve le lendemain, toi tu me portes sur les épaules et moi je balaye le drapeau. Vous avez vu comment il m'exploite? C'est grave. Hein.
J'ai essayé de négocier, mais ça n'a pas marché.
Attention, le monde entier va vous regarder tout à l'heure. Hein. Il sera 13h en France, 20h pour vous. À Tokyo. Vous êtes des copains dans la vie sportive, c'est-à-dire que vous avez grandi ensemble à l'INSEP, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça, ce rassemblement, un gars, une fille, un homme, une femme, la parité pour porter le drapeau tricolore, ça vous a encore plus rapproché?
Ouais, clairement. Clarisse, au-delà, comme je disais, de son côté championne, c'est une femme en or. Et c'est vrai que nous à l'INSEP on était quand même relativement très proches. Et c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a quelques années, tu seras porte-drapeau un jour à Tokyo avec Clarisse, franchement je l'aurais jamais cru. Pour moi c'est mon binôme, c'est un binôme de choc et je suis très très heureux de partager ce moment-là avec Clarisse parce que elle a tout pour elle, c'est une championne, c'est une femme extraordinaire, elle se prend pas la tête malgré son palmarès, elle garde les pieds sur terre, elle montre que c'est la patronne dans le monde du judo et voilà, c'est une nana que je kiffe, que j'adore.
Clarisse, elle a tout, sauf la médaille d'or olympique. Hein. Pardon de le rappeler, Clarisse.
Ça va arriver.
Il n'y a pas de problème. C'est qu'une question de jour.
Voilà. Ça, c'est ma Clarisse. Ça. Voilà. Il y a tout le monde qui s'est retourné, mais c'est pas grave.
Clarisse Agbenienou, 5 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe, vice-championne olympique, c'était Rio évidemment. Il y a un an, lorsqu'on avait annoncé le report de ces JO japonais, vous étiez effondrée, Clarisse. À vous écouter ce matin, tout va bien, vous êtes bien debout. Hein.
Ah, je suis bien debout maintenant que je suis sur le sol japonais et qu'on sait qu'on ne peut pas faire chemin arrière. Je peux être que contente
J'attendais ce moment avec impatience et forcément j'étais très, très déçue, très énervée de ne pas avoir la possibilité d'aller chercher ce titre qui me manquait. Donc pour moi, de ne pas faire ces jeux-là aurait été une déception. Maintenant j'y suis, ça n'a pas été simple, il fallait que je me relève. Mais maintenant que je suis debout, que je suis relevée, je ne vais pas faire chemin arrière. Et dommage pour les filles qui seront sur mon chemin parce que je vais vraiment faire le petit diable de Tasmanie. Hein.
Samir, elle avait eu la médaille d'argent à Rio. Clarisse, vous, Rio, c'est pas le meilleur des souvenirs, évidemment. Les images avaient fait le tour du monde. C'est votre grave blessure avec cette double fracture tibia péronée gauche. Aujourd'hui, tout va bien. Est-ce que du coup, il y a comme un petit air de revanche pour vous sur ça?
Bah oui, alors effectivement, à Rio, moi, je me qualifie pour cette finale olympique. Et malheureusement, je suis reparti avec un métal, mais pas le bon. Le métal, moi, je l'avais dans la jambe. Donc là, on va essayer de l'avoir autour du cou. Maintenant, c'est clair que je suis déterminé pour aller chercher ce petit bout de métal autour du cou. Et j'ai inventé une figure que je vais présenter. Mm-hmm. Faut savoir prendre des risques. J'ai innové, j'ai inventé une figure que j'ai présentée hier lors de la commission. Et je vais la présenter au calife. J'espère que ça va payer. Je suis déterminé, il n'y avait plus de jours de repos. Je m'entraînais même les dimanches. Donc j'ai eu une charge de travail qui a été énorme. Il faut que ça paye. Il faut que ça paye parce que je me suis donné énormément de mal. Voilà, on verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis donné à 300% pour préparer ces jeux.
On l'imagine, vous êtes prêts tous les deux.
Mais Samir, dis-leur le nom de ta figure parce que c'est important quand même.
Bah, le nom, du coup, ça va s'appeler le Haït Saïd. Je vais avoir mon nom à vie dans la gymnastique.
Une marque déposée quelque part.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça.
Clarisse, Samir, avant de vous libérer, évidemment, parce que ça s'approche, cette cérémonie d'ouverture, est-ce que l'environnement là-bas au Japon, tout ce que vous vivez, votre quotidien, être super suivi pour les raisons sanitaires qu'on connaît, ça met un peu plus de pression, ça rend les choses plus difficiles, dites-nous?
Non, parce que on sait pourquoi on est là. Donc voilà, qu'il y ait du public ou pas de public, clairement on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est représenter au mieux, aller chercher ces médailles. Donc on n'est pas strass, paillettes, bling bling. Non, nous on va faire notre job. C'est ce qu'il faut. Donc c'est sûr que bon, ça va être différent parce qu'il n'y a pas de public, mais voilà, ça va rien changer à notre boulot. On est déterminé à faire notre taf et voilà. Adieu pour
moi. Oui, c'est particulier. C'est vrai qu'on aurait aimé que nos familles soient là et qu'il y ait du public. Mais je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau et quand on a vraiment un but, on sait s'adapter. On s'adapte à faire des tests salivaires tous les matins. On s'adapte à avoir le masque. On s'adapte pour avoir en fait le Graal, pour avoir ce qu'on veut. C'est vrai que c'est très égoïste, mais là, on est égoïste avec nous-mêmes. Pour aller chercher la plus belle des médailles. Et derrière, on sait que ça va nous faire un bien fou. Là, on disait avec Samir, mais derrière, on va manger tout ce qu'on peut manger. Parce que nous, c'est vrai qu'on respecte un poids. Après, on va fêter avec notre famille. Moi, je prenais un peu des vidéos d'un peu tout, des photos. Mais j'ai tellement hâte de faire une exposition et de montrer à ma famille. Voilà, on rattrapera des choses différemment.
On va kiffer, nous disait tout à l'heure Samir. On est très très impatients. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin sur RTL. C'était un vrai bonheur, ça fait du bien de vous écouter. Bonne chance, on croise les doigts pour vous, on vous souhaite le meilleur et à toute l'équipe de France, bien sûr, équipe de France Olympique. Merci depuis Tokyo.
Merci à vous.
Merci
et vive
beaucoup.
La France.
Yes, à très vite avec les médailles.
Et on suivra tout cela évidemment. On refait les jeux tous les soirs à partir de ce soir sur notre antenne avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Rendez-vous 18h30, 19h. Restez bien là dans un instant. Cyprien Signy et les pourquoi de l'été.
Sucré. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
À 7h56, il est incollable sur les problématiques estivales, il répond à tout et donc à cette question.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il fait plus froid quand on monte en altitude.
Et ça, c'est une question qui défie un certain sens de la logique, car plus on monte en altitude, plus on se rapproche du soleil, donc on devrait avoir plus chaud, et oui. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas le cas. Au contraire, généralement, on perd en moyenne environ 1 degré tous les 100 mètres, quand il fait 20 degrés au niveau de la mer. Mais il en fait 10 à 1000 mètres d'altitude et tout ça, c'est à cause de la thermodynamique. Pas de panique, je vous explique ce mot compliqué. Plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Il y a moins d'air au sommet du Mont Blanc qu'à la plage. L'air est plus rare, mais pour occuper le même volume, le même espace, il se dilate et donc perd de l'énergie, de la chaleur. Résultat, moins il y a d'air, plus la pression atmosphérique est faible, et moins il fait chaud. Autre façon d'expliquer, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il a donc tendance à monter. Mais encore une fois, en montant, eh ben, il baisse en pression, se dilate et donc se refroidit. Au sommet de l'Everest, par exemple, il y a très peu d'air. C'est très compliqué de respirer. La pression atmosphérique est seulement du tiers de ce qu'elle est au bord de la mer. Résultat, la température moyenne y est de moins 36 degrés, même quand il fait beau. En fait, plus l'air est comprimé, plus il est chaud, plus l'air est dilaté, plus il est froid. En altitude, il se dilate, il est moins dense, donc il fait froid. Pour preuve, une expérience à faire chez vous, avec une pompe à vélo. Vous savez, vous gonflez la roue de votre vélo. En gonflant, vous envoyez de l'air qui se comprime dans le pneu. Eh bien, si tout de suite après avoir gonflé, vous touchez l'embout du pneu, vous verrez qu'il est chaud. Après, de toute façon, quand l'air se fait très rare et qu'il fait donc très froid, en plus de se geler le bout des doigts, on n'arrive plus à respirer. C'est pour ça qu'on ne vit pas au sommet de l'Everest. Preuve finalement que les choses ne sont pas si mal faites.
Et on a tout compris. Réponse de Cyprien Sini dans les Pourquoi de l'été, c'est tous les matins sur RTL. 7h58, les cartes, les radars, la météo du jour, c'est avec Marina. Attention, ça se dégrade.
Ouais, on a des orages. Déjà ce matin sur la Bretagne, ça commence par le Finistère et ça va s'évacuer vers le nord de la Bretagne. Mais il y aura dans l'après-midi une nouvelle salve d'averses orageuses, toujours sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Finistère, Côte d'Armor, Morbihan et Manche sont en vigilance orange pour ces orages. Ailleurs, c'est assez calme. Alors, nuageux quand même sur la façade atlantique. Sur les autres régions, c'est encore bien ensoleillé ce matin. Ce sera un petit peu voilé cet après-midi. Pas désagréable vu les températures. Mais en fin de journée, ce soir, la nuit prochaine, on attend des orages. Et cette fois, du centre-est au nord-est. Donc, la journée sera agréable pour vous. Mais dans la soirée, attendez-vous à des orages parfois violents, vu les températures fortes que l'on a. Et Météo France a placé en vigilance orange la Creuse, la Corrèze, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Côte d'Or. Donc, c'est pour ce soir et la prochaine. Et puis on a toujours l'Aisne et l'Oise en vigilance crue. Mais bon, avant que ces orages n'arrivent, ce sera agréable, plus voilé, température toujours chaude, 36 à Grenoble, 36 à Toulouse, 35 à Clermont-Ferrand, 34 à Tours, 33 à Marseille et Limoges, 32 au Mans, à Orléans, 31 à Paris, 31 aussi à Rennes, à Reims, 30 degrés pour Nantes et Perpignan, 27 à Lille et à Nice, 25 à Brest, ça reste chaud à Brest, mais c'est en baisse par rapport à hier, on a plus les 31 degrés, puis 23 à Cherbourg.
C'est bien noté, Marina Giraudeau qui vous dit tout sur le ciel et vous dira tout sur le week-end tout à l'heure. Merci de nous avoir choisis, si vous ouvrez les yeux, soyez tous les bienvenus, il est 8h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet pour le journal de 8h. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, des jeux sous Covid et des vacances sous Covid.
Vaccination express avant les départs en vacances, alors que la loi sanitaire vient tout juste d'être votée à l'Assemblée. À Tokyo, les jeux s'ouvrent tout à l'heure, sans public, mais avec ferveur quand même. À suivre également la contre-attaque du Maroc dans l'affaire Pegasus. Puis des fruits plus rares et plus chers cet été, le gel et la pluie sont passés par là.
RTL Matin.
Oui, c'est les vacances, c'est la fête, ça c'était Madonna en 1983. Les vacances version 2021, c'est la fête, bon, mais n'oubliez pas votre masque, votre gel hydroalcoolique et autant que possible, votre certificat vaccinal. Ceux qui partent aujourd'hui, et ils sont nombreux, avaient tout intérêt à être vaccinés avant le départ. Exemple avec cette famille du Pas-de-Calais en route pour le Var, c'est un reportage RTL d'Antoine Decarne.
Les valises sont bouclées, tout est dans le coffre, direction Port Grimaud, près de Saint-Tropez pour cette famille du Pas-de-Calais.
Hop, valise prête.
Stéphanie est la mère de famille. La vaccination était prévue, mais il a fallu avancer la date de la deuxième dose pour partir tranquille.
On est 6 à partir, on est 6 vaccinés. Il a fallu rapprocher justement les injections pour être couverts pour partir en vacances. Si on nous demande le pass sanitaire, on pourra le présenter sans aucun problème.
Mais pour Adrien, le cadet de 23 ans, la deuxième dose n'a pas été réalisée à temps pour valider le QR code dès aujourd'hui.
Je pensais pas qu'il fallait une semaine de délai. Malheureusement, j'ai pas avancé ma deuxième dose. Du coup, je serai tranquille, on va dire, pour le pass sanitaire que lundi quand je serai déjà en vacances. C'est un week-end de moins pour moi. On attaquera vraiment tout ce qui est activité à partir du début de semaine et là où je serai tranquille du coup.
Et autre point d'adaptation sur place dans le Var, le masque est à nouveau obligatoire dans 58 communes à partir d'aujourd'hui.
Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, enfin se balader dans la rue avec le soleil et tout, et puis mais le bronzage on va avoir un peu l'air bête en rentrant des vacances quoi. Je me vois mal aller dans les hauteurs du golfe de Saint-Tropez avec mon masque quoi, donc mais bon.
Mais après deux années sans vacances d'été pour cette famille, l'objectif sera tout de même de profiter.
Reportage RTL signé Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais. Si vous prenez le volant aujourd'hui, attention, vous ne serez pas tout seul. Bison Futé a hissé le drapeau orange ce vendredi dans le sens des départs. Demain, ce sera rouge sur toute la France et orange pour les retours.
Les députés ont passé une nuit blanche à l'Assemblée, mais la nouvelle loi anti-Covid est enfin votée.
Oui, il a fallu des heures et des heures de débats acharnés, mais vers 5h30 du matin.
Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 231... Exprimé 203, majorité 102 pour 117 contre 86. Le texte est donc adopté en première lecture.
La nouvelle loi anti-Covid adoptée en première lecture. Principale mesure, l'obligation vaccinale pour les soignants et surtout l'extension du pass sanitaire. Au passage, il est redevenu obligatoire à l'hôpital pour les patients et les visiteurs, dans les EHPAD aussi. Le nouveau texte ouvre aussi la voie à un licenciement pour les salariés qui refuseraient le pass sanitaire. Entre la lutte contre l'épidémie et le combat pour les libertés, les députés ont bataillé ferme toute la nuit sans forcément perdre leur humour. Écoutez donc le communiste Sébastien Jumel.
Et le débat que nous avons permet de montrer les incohérences, les absurdités, les inégalités mises en œuvre à travers vos mesures un peu techno. Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas dû jouer depuis longtemps, parce que si vous arrivez à embrasser votre partenaire de tennis en même temps que vous jouez, soit le terrain est tout petit, soit vous n'êtes pas venu jouer au tennis.
Sébastien Jumel, au micro RTL de Vincent Derosier. Le variant Delta, pendant ce temps, poursuit sa progression inexorable. Près de 22 000 contaminations sur les dernières 24 heures. On est revenu au niveau de début mai, c'est-à-dire avant la réouverture des commerces et des restaurants. Notez que l'Italie impose à son tour le pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux fermés, donc les bars, les restaurants notamment. Ce sera à partir du 6 août, mais le pass sera délivré dès la première dose de vaccin.
L'affaire Pegasus à présent et le Maroc qui contre-attaque.
Rabat poursuit en diffamation Amnesty International et Forbidden Stories, deux organisations qui l'accusent d'avoir espionné des personnalités françaises. Elles se sont procurées la liste des 50 000 numéros de téléphone potentiellement surveillés par le logiciel espion. Y figure notamment le numéro d'Emmanuel Macron, qui vient d'ailleurs de changer de portable et de numéro. Le Maroc est un client de Pegasus, mais le logiciel est israélien. Et Reporters sans frontières demande à l'État hébreu de mieux encadrer la vente de ce type de système. À Jérusalem pour RTL, Stéphane Amar.
Hasard du calendrier, cette semaine, l'université de Tel Aviv accueillait la Cyber Week, le grand rendez-vous annuel des entreprises israéliennes de sécurité informatique, comme NSO. Le Premier ministre en personne est venu prononcer un discours. Naftali Bennett est lui-même issu de ce secteur. Il y a une quinzaine d'années, il a vendu sa start-up pour plus de 120 millions d'euros. Bennett n'a pas dit un mot sur le scandale Pegasus, mais son ministre de la Défense a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Le Parlement israélien vient, lui, de créer une commission d'enquête. Dans ce pays, qui concentre près de la moitié des investissements mondiaux liés à la sécurité informatique, NSO apparaît avant tout comme la victime d'une campagne de dénigrement. La vente de systèmes d'espionnage sophistiqués a permis à Israël de nouer de fructueuses alliances diplomatiques, notamment avec les pays arabes du Golfe et le Maroc. Pas question donc d'accepter une réglementation trop contraignante, comme l'exigent les défenseurs des libertés individuelles.
Merci Stéphane. Stéphane Amar, RTL à Jérusalem. Et dans une dizaine de minutes, on se posera une question. Pourquoi est-ce qu'on s'espionne même entre pays alliés, entre pays amis? Question qu'on posera tout à l'heure au docteur en géopolitique, grand spécialiste Frédéric Ancel, notre invité dans 10 minutes.
Un nouveau bilan après les inondations en Belgique. On compte désormais 37 morts et 6 personnes portées disparues. Avec l'Allemagne, cela fait 214 victimes en tout pour ces inondations en Europe.
Isabelle Choquet revient dans un instant, il est 8h06. Bon réveil à vous tous, nous serons à Tokyo avec l'ouverture des JO.
RTL Matin.
Et Isabelle Choquet, la suite du journal. Dans 5 petites heures, désormais, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques débutera à Tokyo.
11 000 athlètes qui se sont entraînés pendant 5 ans dans l'espoir de revenir avec peut-être une médaille, voire plusieurs. 5 ans car ces Jeux du Covid ont été décalés d'une année. Ce sont des Jeux entourés d'un protocole sanitaire drastique et surtout des Jeux à huis clos. Pas de public tout à l'heure pour voir défiler les sportifs. Notre délégation française, emmenée par le gymnaste Samir Aït Saïd et la judoka Clarisse Agbenienou. Nicolas Burnand, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Tokyo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, malgré tout, malgré ces circonstances très particulières, cette cérémonie veut vraiment rester une fête.
Oui, c'est une cérémonie d'ouverture simple et sobre que promettent les organisateurs. 3h30 de spectacle dans ce stade olympique de 68 000 places, sans public à l'exception de 950 officiels. Un événement rempli de symboles. On y fera référence à la préparation et au confinement des athlètes, à l'histoire et au renouveau du Japon, avec un hommage aux victimes du tsunami de 2011 qui avait provoqué la catastrophe de Fukushima. L'empereur Naruhito, figure symbolique importante dans l'archipel, sera présent. C'est son grand-père qui avait ouvert en 1964, ici déjà, les Jeux de Tokyo.
Et alors l'un des moments les plus attendus de cette cérémonie, Nicolas, bien sûr, c'est l'allumage de la vasque olympique.
Eh oui, la flamme aura été portée par plus de 10 000 coureurs à travers le pays et fera son entrée dans le stade olympique. L'identité du japonais qui se chargera de l'allumer est tenue secret. Elle sera alimentée pour la première fois par de l'hydrogène pour promouvoir un avenir sans carbone. La cérémonie se terminera par le traditionnel défilé des délégations. 80 athlètes français seulement seront présents, emmenés par les deux porte-drapeaux français. Ils défileront en avant-dernier en tant que futur pays hôte des Jeux. Les tricolores arriveront au dernier moment pour éviter de se fatiguer. Il devrait faire chaud et humide, plus de 30 degrés, sans nuages. Le ciel de Tokyo devrait pour une fois être dégagé pour fêter l'ouverture de ces Jeux Olympiques.
Merci Nicolas Burnan, l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur ces Jeux Olympiques à Tokyo. Notez qu'Emmanuel Macron est arrivé cette nuit au Japon pour assister à cette cérémonie tout à l'heure à 13h. Dès ce soir sur RTL, on refait les Jeux, 18h30, 19h, et ce sera tous les jours avec Jean-Michel et Marie Portolano. En France, c'est la fin d'un faux suspense. Valérie Pécresse est officiellement candidate à la présidentielle. Elle ne fait plus partie des Républicains depuis 2017, mais elle passera quand même par la case primaire, ce que refuse de faire l'autre candidat déclaré à droite, Xavier Bertrand. Il fait beau, il fait chaud, pour l'instant en tout cas. On aurait presque oublié qu'on a vécu un printemps extraordinairement pluvieux, une vraie catastrophe pour les producteurs de fruits, d'autant que ce déluge est arrivé après une période de gel. Résultat, les vergers sont dévastés. En Lorraine, on est quasiment à 100% de pertes sur les cerises et les abricots. Écoutez Luc Barbier, le président de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle.
Beaucoup de pertes sur des productions fragiles, type pêche, abricots, où là, c'est à peu près raclé à 100%. Après, sur cerises douces, on était sur une récolte faible, assez faible. Les pluies ont eu raison des quelques cerises qui restaient. Il y a quelques abricots qui ont pu être sauvés lorsque ça a été protégé. Et encore, sur une gelée noire, c'est très difficile. Avec les autres productions, pour le moment, on est sur des récoltes faibles. La production qui s'en tire sans doute le mieux, a priori, pour le moment, c'est la mirabelle et la quetch. Et le fait qu'on soit en petit volume, on va avoir des fruits qui vont être plutôt gros, qui vont compenser une partie de la perte qu'on a pu avoir. Et pour le moment, l'état sanitaire ne nous inquiète pas, à condition que le beau temps revienne et se maintienne jusqu'à la récolte, oui. La récolte devrait débuter vraisemblablement entre 15 et 20 août pour durer à peu près un mois et demi. Globalement, c'est une année à 50% de récolte, 60% de récolte. C'est une très petite année.
Voilà, nos fruits plus chers, plus rares cet été. Propos recueillis pour RTL par Dimitri Ramelot.
Merci Isabelle. Isabelle Choquet pour toute l'actualité à 8h11. La route. On vous accompagne évidemment pour un nouveau week-end bien chargé. Sarah Lou, Bakouche, il y aura du monde. Mais pour l'instant, ça va ?
Exactement. Pour l'instant, tout va bien. On roule sans de grosses difficultés. Cette journée, elle est classée orange dans le sens des départs par Bison Futé. C'est le calme avant la tempête, hein, puisque c'est surtout la journée de demain qui s'annonce très, très, très compliquée sur les routes. Donc pour l'heure, je vous le disais, c'est plutôt fluide sur les gros axes bien empruntés. Évidemment, ça commence déjà à se charger en vallée du Rhône sur l'autoroute A7. Vous êtes nombreux à descendre vers le soleil. Attention, ça coince entre Montélimar et Valence dans le sens de la remontée. Ça se passe au kilomètre 84. Un accident vous ralentit sur quelques kilomètres, mais pas de très grosses difficultés. Encore une fois, on vous souhaite bon courage aujourd'hui sur les routes.
Bon courage et grande prudence, évidemment.
Les chemins de Saint-Jacques sur RTL.
C'est tous les vendredis de cet été. RTL vous emmène, c'est vrai, sur les chemins de Compostelle. Avec ce matin, le deuxième épisode au cœur d'un pays aussi sauvage que mystérieux, le Gévaudan. Après plusieurs kilomètres et un dénivelé assez élevé dans les sentiers au sortir du Puy-en-Velay, bienvenue à Saugues, à l'extrême limite de la Haute-Loire. Pour une étape inattendue, Raphaël Vantard, on vous accompagne.
Après le départ du Puy-en-Velay, passage dans les gorges de l'Allier, puis ce sont les premières pentes raides du GR65. Les randonneurs ont donc déjà des kilomètres dans les jambes lorsque soudain...
Plein la vue, c'est une récompense.
Saugue, ville de granit, se dresse ici sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bienvenue au cœur du Gévaudan, aussi boisé que verdoyant, aussi rugueux l'hiver que mystérieux à toutes les saisons. Gaëlle, sa fille et ses compagnons de route achèvent ici leur deuxième étape.
On arrive d'où ? Bonistrol d'Allier, 13 kilomètres. 13, ouais, c'est une petite étape. Une coupure avec Internet, les mails, le travail, et puis un partage avec ma fille. Ouais, elle a encore son téléphone, mais c'est pour les photos. Hein. Il y a des moments où effectivement on est avec soi, où on réfléchit sur, voilà, sur ce qu'on vit dans notre corps et tout. Mais c'est aussi de super rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas avant de partir, quoi. Même si on ne loge pas au même endroit, on se suit. Mais on est super content de se retrouver le lendemain matin et de refaire le chemin ensemble.
Mais que renferment ces pierres graniteuses imposantes? Aurore Jarry est guide conférencière. C'est souvent elle qui accompagne les visiteurs à Saugues à travers ces rues chargées d'histoire.
Quand on arrive à Saugues, en fait, la première chose qu'on peut voir, c'est cette fameuse tour des Anglais, hein, qui surplombe la ville de Saugues. Et ça, c'est emblématique, eh bien, de cette période médiévale, parce que Saugues s'est développée au Moyen-Âge. On a une belle vue, on a à côté le Puy-en-Velay, on a les bois de la Margeride. Donc là, nous sommes devant la collégiale Saint-Médard. On a un clocher-porche, et sous ce clocher-porche, on a des petits sièges où s'arrêtaient les pèlerins. On a une collégiale qui est construite en granit, belle pierre grise avec ses cristaux de feldspath.
On va faire un petit tour, on va baisser un peu la voix pour rentrer dans la collégiale.
Quand on rentre dans cet édifice, on a un édifice qui est très vaste. Ça paraît très sombre, et puis après, très vite, l'œil va s'habituer à cette obscurité, elle-même ça s'éclaircit, parce que ce fameux granit va apporter de la lumière.
Au sol, dans certaines rues, d'inquiétantes traces d'animaux peintes en blanc. Saugues, c'est aussi le cœur du Gévaudan. Elsabeth, terreur du Moyen-Âge. Était-ce un loup, un animal venu d'ailleurs au musée de la Bête? Blandine raconte tous les jours aux visiteurs cette légende encore tenace.
Ben on leur dit ce qu'on en sait, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'était cette bête. Par contre, on a la liste des victimes, donc il s'est bien passé un phénomène. Après, il y a plein d'hypothèses, mais aucune n'a été confirmée.
Parlez-nous un petit peu du musée, qu'est-ce qu'on y découvre à l'intérieur?
Alors, on y trouve l'histoire de la bête avec 22 scènes guidées par la lumière et le son.
C'est un grand malheur pour le pays du Gévaudan.
Ça fait peur?
Un petit peu, c'est pas les bisounours, hein. C'est l'histoire de la bête. Et ils arrivent jusqu'à ce que Chastel tue la bête.
Ça, c'est la délivrance, quoi.
Oui.
Pas vraiment le temps de céder à la moindre frayeur. Il faut reprendre ce chemin de Compostelle direction Chanaleil, 13 km à pied, l'auberge du Sauvage. Jérôme et sa trentaine d'agriculteurs accueillent tous les soirs des randonneurs du monde entier.
L'idée, c'était bien sûr de préserver ce lieu qui était quand même un gîte depuis très 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 longtemps. On a des écrits, on va dire, des pèlerins qui passaient déjà au 12e au Sauvage.
Voilà, il y a du monde.
Quand on arrive, c'est l'accueil du pèlerin, il se passe ici. Si on a un groupement d'agriculteurs, le but c'est d'adapter tous les menus à ce que les agriculteurs sont capables d'amener. Des fromages locaux, des yaourts locaux, des... voilà, il y a plein de choses.
Qu'attendent les pèlerins quand ils viennent ici?
C'est trouver des produits qu'ils trouvent pas ailleurs, en fait, c'est ça. Le soir, on sert souvent des confitures qu'ils ont jamais vues. La confiture Janssen, la confiture de pommes sureau, de la confiture de pissenlit, et leur faire relativiser un petit peu en disant voilà, les agriculteurs, ça sert aussi à ça. Leur rôle, c'est de nourrir aussi la société, mais la nourrir correctement et que tout le monde ne fait pas n'importe quoi, quoi. C'est ça qui est important.
Quand on fait le chemin de Compostelle, en général, il y a une dimension philosophique de réflexion. Vous vous inscrivez là-dedans, vous aussi?
Moi, je dis, j'ai l'impression d'avoir fait 10 fois le chemin alors que j'ai jamais fait 10 mètres du chemin, quoi. On a l'impression d'avoir été à Saint-Jacques alors qu'on n'a jamais dépassé la frontière, quoi. Mais bon, donc on a tellement d'histoires d'eux qu'on a l'impression d'avoir été au bout.
Qu'est-ce que vous leur dites en partant?
Qu'on espère les revoir et que surtout ils arrivent à trouver ce qu'ils ont envie de trouver sur le chemin.
Quelques centaines de mètres plus loin, c'est déjà la Lozère, puis l'Aveyron. Prochaine étape incontournable, Conques, la semaine prochaine. Patrick Hisson vous y attend déjà au menu. La découverte d'un des plus beaux villages de France, un joyau de l'art roman.
Nous sommes impatients. Merci à vous, Raphaël Vantard, pour cette deuxième étape sur les chemins de Compostelle. Merci pour la balade. C'est tous les vendredis de l'été sur RTL. Il est 8h17. Restez bien là. Dans un instant, l'affaire Pegasus, le vaste dossier de cyberespionnage. Qui espionne qui? Pourquoi? Et pourquoi entre pays amis? On pose toutes les questions qui s'imposent à un docteur en géopolitique, un vrai spécialiste. C'est Frédéric Ancel qui nous rejoint dans un instant.
RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là. 8h19 en ce vendredi, c'est l'affaire qui fait grand bruit cette semaine, qui nous intéresse ce matin, c'est l'affaire Pegasus. Vaste dossier d'espionnage entre grands de ce monde. On parle là de cybersécurité, de cyberespionnage. Et au rang des cibles figurent, vous le savez, des personnalités françaises, des journalistes, des politiques, dont le président Macron. Le logiciel espion est made in Israël. Le Maroc, qui dément et se défend, aurait écouté le locataire de l'Élysée et ses ministres, et des enquêtes pas simples sont en cours. Nous avions envie de comprendre si nous sommes déjà sur du déjà-vu, presque sur du classique, et qui espionne qui, et qui de mieux que Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, pour nous guider ce matin dans cet univers mystérieux. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Est-ce que ça veut dire qu'en termes de renseignement, il n'y a pas de camp, que c'est la jungle, si j'ose dire, que tout le monde aujourd'hui espionne tout le monde ?
Ah oui, très clairement, tout le monde espionne tout le monde. Alors je vais vous rassurer, ainsi que vos auditeurs, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Hein. Et c'est vrai entre les États, c'est vrai entre les pré- ou les proto-États naguère, c'est vrai entre les entreprises, c'est vrai entre les ONG. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas nouveau. Ce qui nous semble plus spectaculaire, c'est évidemment aujourd'hui l'usage du high-tech, hein, et en particulier des ordinateurs et des téléphones portables.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles dans ce milieu-là. Hein. Tout est permis, tout est possible aujourd'hui.
Alors tout est permis en termes d'espionnage, même si on accepte difficilement de l'être, mais à condition de ne pas faire usage de manière négative des éléments qu'on a pu récupérer, notamment vis-à-vis des amis et des alliés. Et évidemment, c'est là que qu'intervient le véritable enjeu. Tout le monde sait très bien que tout le monde espionne, mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire des éléments recueillis ?
Là, concrètement, c'est le Maroc qui est soupçonné d'avoir mis sur écoute notre président de la République. Ce sont deux pays amis, la France et le Maroc. Quel est l'intérêt d'espionner des alliés ?
Alors d'abord, non seulement ce sont des pays amis, ce sont des pays alliés, et la France manifestement n'est pas directement visée par le Maroc, du moins c'est pas la seule visée, je ne dirais d'ailleurs même pas par le Maroc, mais par des services de renseignement marocains, puisque il ne vous aura pas échappé que en très haut lieu au Maroc, de très hautes personnalités, peut-être même jusqu'au roi Mohamed VI, des personnalités ont pu être visées. Donc je ne parlerai même pas de l'État marocain. Maintenant, notez par ailleurs que parmi les clients de NGO Group, hein, donc cette entreprise israélienne, vous avez une bonne quinzaine d'États. Et j'ajoute un dernier point, c'est que, au fond, on est aujourd'hui manifestement sur moins de 10% de l'ensemble des portables visés qui sont français. Au regard des enjeux méditerranéens et de la puissance de la France aux côtés du Maroc, visiblement, c'est vraiment pas la France qui constitue un prisme particulier pour le Maroc.
Frédéric Ancel, précisément concernant le chef de l'État Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu imprudent d'utiliser des téléphones portables pas protégés, pas cryptés, comme on dit. Alors presque moi, naïf, même.
Alors, si vous voulez, le problème est le suivant. On peut tenter d'éviter de se faire écouter par telle entreprise, par tel autre État. Mais de toute façon, celui qui a vraiment la volonté et la capacité technique de vous entendre, il aura toujours un coup d'avance. Donc moi, j'inverserai le postulat en demandant si il est réellement positif de sombrer dans une espèce de paranoïa collective. Hein. C'est la raison pour laquelle je pense que, fondamentalement, lui, mais comme beaucoup d'autres, parce que là encore, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, et puis vous l'avez dit dans votre introduction, beaucoup de ministres, de journalistes, d'avocats, bref, des milliers de personnes ont pu être visés, mais pas particulièrement un chef d'État. Donc non, je vous dirais que, au fond, je ne crois pas qu'on ait particulièrement péché par naïveté.
Est-ce qu'on doit comprendre, là, il vient de changer de portable, il vient de changer de numéro, qu'il est déjà écouté ?
Écoutez, c'est possible, mais je vais vous faire la réponse suivante. Si la France, et de manière peut-être plus générale l'Europe, mais si la France en particulier, qui il y a encore quelques années était leader dans le domaine mondial des télécoms, quelques dizaines d'années, si la France ne met pas suffisamment sur le plan financier, dans la recherche et le développement, en particulier dans ce secteur de plus en plus stratégique, de quoi parvenir à contrer telle ou telle tentative d'espionnage, bah écoutez, vous savez quoi, on n'aura qu'à ne s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est vrai pour la France, mais encore une fois, c'est vrai sur le plan européen, parce que là, nous avons toutes les ressources et tous les ingénieurs qualifiés, en quelque sorte, pour nous aussi, en quelque sorte, parer, ou nous aussi. Nous faire les champions d'une forme d'espionnage.
Et je dois comprendre qu'on est à la bourre sur le dossier ? On est en retard ?
Malheureusement, on l'est devenu. Nous étions parmi les premiers, ouais. Et aujourd'hui, je pense malheureusement qu'effectivement, on n'a pas des gouvernements successifs n'ont pas suffisamment investi ces 30 dernières années dans les télécoms, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu un secteur absolument stratégique.
Alors, on a pris du retard, mais est-ce qu'on continue quand même à espionner les autres ? Est-ce que la France, est-ce que Paris espionne aussi les autres et ses alliés ?
Mais la réponse est oui. Mais le si vous voulez, je pense qu'il faut se méfier du terme d'espionnage. On s'imagine des OSS 117 et des espions à l'ancienne, à la britannique, j'ai envie de dire, un petit peu partout. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous pouvez glaner des informations, des renseignements, eh bien vous les prenez. Et au pire, je devrais dire au mieux, si cela concerne des amis ou des alliés ou des États qui ont quelque chose à échanger avec vous parce que sur tel ou tel dossier, sur telle ou telle zone, bah on n'est pas d'accord, il y a des bisbilles, eh ben on les échange. Mmh. Si vous voulez, c'est une, j'ai envie de vous dire, c'est une ressource en fait comme les autres. Hein. Je pense qu'il faut la conventionnaliser et il faut arrêter de la fantasmer, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays comme le Maroc. Écoutez, on parle quand même pas de la Russie ou de la Chine.
Ouais, les informations récoltées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Il y a une espèce de petite banque de récolte, on mélange tout ça, on échange, on fait quoi?
Alors, bah, on échange lorsque c'est intéressant. Dans l'immense majorité des cas, et contrairement à ce qu'on peut croire, bah, ça tombe dans l'oubli. C'est-à-dire, ça reste effectivement, alors naguère dans des dossiers papier, aujourd'hui effectivement dans des dossiers cyber, mais on n'a pas de quoi en faire des choses très intéressantes. Écoutez, moi, vous voyez, si des services de renseignement qui auraient écouté pendant des jours, des semaines, des mois, des gens peut-être tout à fait passionnants dans leur vie personnelle, mais enfin, qui n'apporteraient pas, en quelque sorte, des éléments concernant l'objectif, parce qu'il y a toujours un objectif quelque part, hein. Bah oui, on les remise par-devers soi, et je pense que pour l'essentiel, ils sont oubliés.
Je vous écoute là avec attention, ça veut dire que c'est pas grave au final?
Alors en l'occurrence c'est pas grave ce qui concerne là pour le coup le Maroc et la France, réellement, ça j'insiste, c'est pas grave. On a affaire à des états amis, bon, mais je vous dirais que si on ne se prémunit pas dans les prochaines années ou les prochaines décennies contre des puissances, alors pour le coup, authentiquement hostiles, authentiquement très importants, des géants de demain, et je les cite encore une fois, et notamment, enfin, je voudrais commencer par la Chine, alors je pense que là, on aura potentiellement de très sérieux problèmes. C'est vrai en termes de concurrence industrielle, c'est vrai en termes de sécurité cyber, hein, de sécurité civile, et peut-être même un jour en termes de sécurité militaire. Donc il faut quand même, me semble-t-il, hein, encore une fois, faire des efforts budgétaires pour parer à ce genre de risque dans les prochaines décennies.
C'est très intéressant de vous écouter. Merci à vous, Frédéric Ancel, d'avoir partagé tout cela avec nous, enseignant à Sciences Po, Paris, docteur en géopolitique et auteur de l'ouvrage « Les 100 mots de la guerre » disponible aux presses universitaires de France. On réécoute tout cela très vite, bien sûr, avec l'appli RTL. 8h27, les grosses têtes pour rigoler et Marina pour rigoler. Non, je plaisante, pour le ciel, à tout de suite.
Oh. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Notre remède à la morosité, ce sont les grosses têtes sur RTL, indispensables dès 15h30 cet après-midi, le meilleur de la saison, orchestré par Laurent Ruquier, accompagné de Chantal.
Vous avez une arme, vous, chez vous, Chantal?
J'ai un fusil. Oui.
Ah, j'étais sûr.
Bah, vous savez quoi? Elle a son corps.
Oui, mais
c'est la meilleure des armes.
Ouais. Mais il est un peu enrayé. Hein.
Quel genre de... Bagne, on a un truc sous le lit, espèce de fusil.
Un fusil sous le lit?
C'est-à-dire qu'on ne sait pas où sont les balles, on s'en sert pas.
C'est pratique.
Oui, mais attends. Hey, nouvelle affaire Pistorius.
Oui, mais si s'il y a un coup qui part inopinément,
il y a longtemps que ça arrive plus dans le couple.
Tu vois, nous, on avait invité les amis à la campagne, on avait oublié qu'on les avait invités, ils sont arrivés un peu tard.
Eh ben, ils sont pas repartis.
Laurent Ruquier, toutes les grosses têtes, évidemment, pour bien rigoler. C'est 15h30, 18h cet après-midi. Pareil que j'ai fait rire du monde, j'ai dit Gévaudan tout à l'heure au lieu de Gévaudan pour les chemins de Compostelle. Évidemment, je me suis trompé.
Non, parce que vous avez un côté drôle, c'est tout. Vous êtes et journaliste et humoriste.
Vous êtes aussi un remède à l'amorosité, Marina.
Oh, si vous le dites, c'est bien gentil. Avec encore une journée très agréable, même s'il y aura une petite exception, c'est sur la façade atlantique. Pour vous, c'est beaucoup plus couvert et ça va se dégrader sur le nord-ouest. Mais pour les autres régions, on garde une belle sensation. J'ai une belle sensation parce que le ciel va quand même se voiler. Il sera moins bleu pour certains qu'hier, mais vu les températures encore chaudes, ça restera agréable. Cette dégradation, elle concerne déjà ce matin la Bretagne, elle concernera les Pays de la Loire, la Normandie, où des averses orageuses sont attendues et des averses orageuses assez fortes, donc grande prudence. Sur le reste de la façade atlantique, le ciel sera couvert, il peut y avoir quelques ondées. Et pour les autres, donc agréable, malgré un ciel de plus en plus voilé, puisque les températures seront vraiment chaudes. À signaler quand même qu'en fin de journée, les orages vont concerner la zone qui va du centre-est en remontant vers le nord-est. En tout, il y a 16 départements en vigilance orange. Donc Finistère, Côte d'Armor, Morbihan et la Manche pour dès ce matin. L'Aisne et et l'Oise toujours en vigilance crue. Et puis les orages ce soir de la Creuse en allant vers la Loire et en remontant jusqu'en Côte d'Or. Pour les températures cet après-midi, 23 à Cherbourg, 24 à Biarritz, 25 à Brest, ça baisse sur l'Ouest, 27 à Lille, 30 degrés pour Metz et Perpignan, 31 à Paris, Francorchamps dans la capitale, 31 à Mulhouse et Ajaccio, 32 à Orléans, vous aurez 33 à Marseille. Il fera 35 à Clermont-Ferrand et 36 à Grenoble et Toulouse.
Marina Giraudeau.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
À 8h32, l'essentiel de l'actualité avec Hortense Crépin.
Tokyo jour J, la cérémonie d'ouverture des JO démarre dans un peu plus de 4 heures à 13h heure française et donne le coup d'envoi d'une édition reportée d'un an qui se tient dans des conditions particulières pour représenter nos 378 athlètes. Un tandem comme porte-drapeau, Samir Aït Saïd et Clarisse Agbenienou, pour qui le rêve devient réalité, c'est ce qu'ils ont déclaré tout à l'heure sur RTL. Et parmi les officiels présents, Emmanuel Macron, nous sommes à pied d'œuvre pour préparer Paris 2024, a déclaré le chef de l'État depuis Tokyo. Fin du marathon à l'Assemblée. Après une nuit de débat, les députés adoptent en première lecture le texte concernant le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Adoption dans un contexte de hausse des contaminations. Le taux d'incidence dépasse désormais les 100 cas pour 100 000 habitants dans tout le pays. Le Sénat va maintenant examiner le projet de loi que le gouvernement souhaite voir adopter avant la fin du week-end. Dans ce contexte, la vaccination s'impose comme l'arme pour lutter contre la quatrième vague. En Europe, c'est désormais la moitié des adultes qui sont vaccinés contre le Covid. La France est-elle en passe de franchir le cap des 40 millions de primo-injections avant la fin du mois? Une semaine après les intempéries qui ont ravagé plusieurs villes d'Europe, le nouveau bilan des victimes, 37 morts en Belgique et toujours 6 habitants portés disparus. En Allemagne, 177 personnes ont-elles perdu la vie. Et puis c'est une annonce qui devrait décevoir les fans de rugby. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ne vont pas participer à la Coupe du Monde de rugby à 13 en Angleterre, prévue à l'automne. Et cela en raison des craintes pour la santé des joueurs avec la pandémie.
Hortense Crépin pour toute l'actualité.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain, ce sont des personnalités qui se confient au micro RTL après un an et demi de Covid. Le passé, le présent, le futur, la vie chamboulée et l'avenir. Ce vendredi, rencontre avec une humoriste et comédienne.
Bonjour Bérangère Krief.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais plutôt bien. Le soleil est revenu et du coup, on ressent un peu l'été. Donc ça fait du bien.
Qu'est-ce qui vous a manqué le plus, vous, les tournages ou les planches?
Les planches. J'adore tourner, mais je trouve que l'énergie n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus d'attente. Je retrouve l'adrénaline sur scène uniquement. Cette impression d'être sans filet, c'est ça qui me plaît le plus, je pense.
Beaucoup de comédiens, de musiciens parlent de leur lien avec le public. Vous avez l'impression qu'il y a un lien qui est en train d'être restauré?
Avec Instagram, c'est vrai qu'on n'a pas la sensation de couper totalement. Bon, moi, je suis très accro aux réseaux sociaux. Je fais souvent des petites pauses, mais bon, généralement j'y suis, donc j'ai pas l'impression d'avoir totalement coupé, mais c'est vrai que l'énergie de la scène, et puis moi ce spectacle il me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vraiment écrit pour tous les cœurs brisés d'aujourd'hui et d'hier, et ça parle vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire de sa rupture, d'amour de soi. J'avais vraiment à cœur de partager ce spectacle parce que, non pas que je me prenne pour une thérapeute ou une soigneuse, mais en tout cas quand je suis sur scène avec ce spectacle, je sens qu'il se passe un truc pour les gens et pour moi qui a une vraie communion, un vrai partage. Donc ça me manque vraiment, quoi. Et ça, je peux pas le retrouver sur Instagram, évidemment.
Il y a des nouvelles habitudes que vous avez, vous, à cause de la crise sanitaire?
Je sais pas du tout, mais par exemple, je pensais vraiment que quand tout réouvrirait, je n'aurais qu'une envie, c'est faire la fête, de prolonger. Je crois que j'ai même pas dépassé vraiment un couvre-feu, j'ai pas refait la fête. Ça a changé un peu ce côté. Bon, je reste au calme, mais c'est pas grave. Moi, je suis très intriguée par la relation à soi-même, en fait. Ce côté être avec soi, au calme.
L'amour. C'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre.
Si vous deviez trouver un mot pour qualifier le Covid, vous pensez à quoi, là, tout de suite?
J'allais dire malicieux, espiègle. Parce que je trouve que c'est pour moi à la fois une abomination, enfin un truc qui est hyper flippant. Donc il y a quelque chose où tout s'arrête, le truc il reprend ses droits et on n'a plus le contrôle. Moi, ça m'a invité à regarder des choses et j'ai senti même dans mon entourage que plus rien de ce qui était bancal avant
ne pouvait tenir. Les repas de famille, tout a explosé. Les mini-conflits, les mini-abcès qui s'étaient nichés, enfin, ou les gros abcès, hein, mais tout explose. Et je trouve ça toujours intéressant quand une galère arrive, de comprendre pourquoi elle est là, en fait.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain ?
Je sais pas, parce que c'est vrai que pendant le premier confinement, on s'est dit tout va changer et tout. Puis là, bon, bah, c'est reparti. Hein. Je vois pas tellement de grosses différences. Moi, j'avais pas, par exemple, dans le monde d'avant, la notion de liberté d'être, de liberté de mouvement, d'avoir été contrôlé, de pas pouvoir aller à tel endroit, qu'il y ait des grosses règles comme ça de vie. Ça m'a appuyé sur une liberté que j'avais avant. On mesure peut-être encore mieux la chance d'avoir accès à la culture aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une musique, un son que vous avez beaucoup écouté pendant cette période qui vous a donné un peu de joie?
Oh, ça a été long sur un an, j'en ai plusieurs, hein. J'ai toute une playlist. Hein. Non, mais on va dire le mendiant de l'amour, c'est une énergie, bah, l'énergie d'amour, l'énergie du cœur, l'énergie de tout ça, ça me galvanise.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Rieff.
Bah, de rien, merci à vous.
J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez.
Ça fait bouger en régie et j'imagine bien chez vous à la maison Bérangère Krief face à Guillemette Franquet, des confidences de plus. Et demain, c'est le rendez-vous du matin tout l'été sur RTL. La culture à suivre avec le coup d'envoi de Laissez-vous tenter version soleil. Stéphane Boudsocq, Monique Younes ce matin, ils nous attendent avec du lourd. A tout de suite.